Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. Le libraire. Au programme, la suite de « Promenade dans une cité de mots ». Élise A. Héroux, « La vie devant soi ». Et, entre parenthèses, quelques incontournables en littérature étrangère. Bonne écoute!
Vous écoutez « Promenade dans une cité de mots », un texte de Marie-Ève Sévigny, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Le foyer culturel. Revenant sur mes pas, je longe par la rue Dauphine, la maison de la littérature dont les hautes fenêtres en ogive jaugent les baies à croisées du Moran Center, chacune des deux bibliothèques souriantes à sa voisine. J'ai l'impression de voir la vieille lady tendre à sa copine francophone une tasse de thé en faïence qui tremble dans sa soucoupe. L'ICQ et la Literary and Historical Society, 1824, répondent à une mission semblable, chacune pour sa communauté linguistique. L'identité de la capitale repose beaucoup sur cette coexistence, cette entraide au fil du temps. C'est d'ailleurs la famille d'un Anglo de Québec, le sénateur Lorne C. Webster, qui offre, en 1941, l'ancienne église méthodiste Wesley à la ville de Québec pour que l'ICQ installe sa bibliothèque et sa salle de spectacle. Sur l'esplanade où se rejoignent les rues Cook et Saint-Stanislas, je fais une pause à l'un des bancs de pierre, considérant le temple néo-gothique où se trouvait jadis la salle de l'Institut, 1944-1999. À combien de spectacles ai-je assisté ici quand j'étais gamine? Il me fallait toujours de bonnes grosses minutes pour cesser d'être impressionnée par la splendeur austère de la salle, où je me faisais souvent disputer à force de m'amuser dans l'escalier en colimaçon du balcon. Je me sentais bien petite, jusqu'à ce que la musique m'entraîne dans l'innommable. Ce lieu m'emportait dans des émotions trop grandes pour moi, me subjuguant par ses grandes envolées lyriques, avant de me laisser, à la sortie, chiffonner par tout ce qui m'avait traversé et qui me laisserait longtemps silencieuse. Je ne suis pas surprise que, parallèlement à son engagement en bibliothéconomie, l'ICQ mène encore aujourd'hui sa mission de diffuseur culturel. Au fil des années, l'habitude s'est transformée en évidence. Les personnes les plus âgées d'entre nous se souviendront qu'avant l'ouverture du Grand Théâtre, en 1971, Québec compte peu de salles de spectacle d'envergure. Qu'il s'agisse de musique, de théâtre ou de conférences, que ce soit au Palais Montcalm ou à la salle de l'Institut, la programmation de l'ICQ est courue. Les séries « Les lundis de l'Institut » 1965-1995, puis « Classique et compagnie » 1995-2002, offre des concerts de prestige, souvent diffusés par Radio-Canada. À l'Auditorium Joseph Lavergne, les « Dimanches familles » 1990-2006 font hurler de rire les enfants par leur spectacle multidisciplinaire où se mêlent le cirque, la danse, le théâtre, les contes ou les pantomimes. Même le hall central de la bibliothèque Gabriel Leroy est mis à profit, en décembre 1983, pour accueillir une émission spéciale de « Stanquer Centre-Ville » diffusée par Radio-Canada avec Alain Stanquer et l'Orchestre symphonique de Québec. Le milieu des arts visuels n'est pas en reste, puisque le programme « Une vitrine pour les artistes » s'assure d'en présenter les œuvres dans les différentes bibliothèques du réseau. Aujourd'hui, Ces dernières présentent des activités jadis initiées par le programme des bibliothèques animées. C'est alors que l'ICQ a l'audacieuse idée de créer Contexte 1998-2006, une série de spectacles littéraires. Gilles Vigneault vient y chanter, sobrement accompagné au piano. Soif de Marie-Claire Blais y est mise en lecture avec Yvon Bilodeau et Béatrice Picard. Le groupe Villeray met en musique des poèmes de Saint-Denis Garneau. L'ICQ a-t-il alors conscience d'ouvrir un coffre au trésor qui ne consentira jamais à se refermer? Vous écoutez « Promenade dans une cité de mots », un texte de Marie-Ève Sévigny, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Les enfants de Ducharme. Je contemple la maison de la littérature. Si je patiente assez longtemps jusqu'à la nuit tombée, la haute fenestration romantique illuminera le quartier. Dans deux jours, la nuit de la poésie fera flamber la scène principale par une vingtaine de poètes en tout genre. Ça ne risque pas de cesser de slammer, puisque le lendemain, deux Acadiens sortent de leur résidence d'écriture en donnant un spectacle de « spoken word ». Et ça swing comme ça plusieurs fois par semaine, de la table ronde sur les tabous artistiques au colloque sur les femmes de lettres, en passant par le festival de contes et menteries ou les rendez-vous de la BD. Pas moyen de rester tranquille chez soi pour lire. Comme l'ensemble des initiatives de l'ICQ, la Maison de la littérature répond à un vieux rêve qui, pour devenir réalité, a demandé son lot de folie, d'énergie et de patience. À la fin du 20e siècle, alors que la salle de l'Institut doit fermer ses portes, l'ICQ songe à lui donner une nouvelle vocation. On propose à la Ville de Québec, qui en est propriétaire, de la convertir en maison de la littérature. Les élus se succèdent sans que se concrétise l'audacieux concept. C'est lorsque Régis Labeaume arrive à la mairie que le projet prend son envol. Féru de lecture, l'homme qui voit grand espère un jour rencontrer son idole, Paul Auster. Marie Goyette et Jean Payeur, anciennement à la direction de l'ICQ, ont gardé précieusement le souvenir du moment où s'est joué l'avenir du lieu. Nous étions avec le maire à visiter cette salle poussiéreuse, fermée hermétiquement par ses fenêtres bouchées et servant de débarras depuis quelques années. Nous sommes montés au balcon. Le maire a regardé attentivement la salle, comme pour s'imprégner de l'esprit du lieu et imaginer son potentiel. D'habitude verbomoteur, il nous frappait par son silence. Le maire avait vu notre plan « image du projet » qui illustrait une mezzanine sur tous les murs. Inspiré par ce plan, qui montrait tout le potentiel du lieu, il a dit « Non, pas de mezzanine devant ces magnifiques fenêtres. » Donc, on a compris qu'il acceptait l'idée d'une reconversion. Un moment merveilleux. Je pénètre à l'intérieur de la maison pour déposer mes livres en retard. Des applaudissements proviennent de la scène littéraire dans le cadre d'une remise de prix. Personne ne me gronde tandis que je gravis le large escalier de colimaçon qui mène à la bibliothèque. J'ai beau être une habituée, chaque fois que je parviens à l'étage, je sursaute devant tant d'éblouissements. Le gant s'est retourné. Ma salle obscure de jadis resplendit. Un jeune homme sort doucement d'un des cabinets d'écriture, tandis que, juste à côté, deux étudiantes discutent en feuilletant leurs livres de classe. Je croise des amis de l'ICQ qui se creusent déjà les méninges pour monter la prochaine édition de Québec en toutes lettres. Je m'émeus encore une fois de constater combien une si petite équipe arrive, par son inventivité, à d'aussi grandes réalisations. Je me souviens de la première année du festival, 2010, consacré à un autre amant des bibliothèques, l'écrivain argentin Jorge Luis Borges. Dans le cadre des réjouissances, j'avais assisté au récital de ses textes, accompagné par le tango lancinant du couple lauréat d'un prestigieux concours de Buenos Aires. J'en frissonne encore. L'année suivante, dédiée à Régent Ducharme, la littérature s'était transportée dans la rue Saint-Joseph, dont les trottoirs étaient tapissés d'extraits de ses romans. Me revient alors un extrait du message de Ducharme lu par sa compagne Claire Richard lors d'une célébration du centenaire des éditions Gallimard à la bibliothèque Gabriel Roy. Ce pourrait devenir l'exergue de la longue complicité entre l'Institut canadien de Québec et la population de la capitale. Après avoir vécu de rêves, ceux des autres surtout, comme on vit d'amour, comme on vit dans une bibliothèque, où on ne rend pas tout ce qu'on prend, malgré ce qu'on a dit. Régent Ducharme, dernier message public, 20 octobre 2011. D'un étage à l'autre, j'erre parmi les rayonnages consacrés à la collection de littérature nationale. Les classiques qui ont jadis fondé l'ICQ dorment sans doute ici, dispersés entre les polars, les romans historiques, les essais québécois. Je considère ces autrices et ces auteurs qui, à bout de lecture, se sont mis à écrire. Combien de livres, ici, sont nés de lecture, d'événements suscités par l'ICQ? Joyeux anniversaire, mon vieil ami! 1848, fondation de l'ICQ. 1897, entente pour la création de la Bibliothèque de Québec. 1906, première femme employée. 1944, ouverture de la salle de l'Institut. 1983, ouverture de la bibliothèque Gabriel Roy. 1991, informatisation de la Bibliothèque de Québec. 2005, création de la première résidence d'écriture. 2010, première édition du Festival Québec en toutes lettres. 2015, ouverture de la Maison de la littérature. 2017, Québec devient ville de littérature UNESCO. Les secrets de la grande mademoiselle. Dans la lignée des grandes oubliées de l'histoire, la figure de Joséphine Lortie, 1864-1956, reste aussi obscure que fascinante. Première employée féminine de l'ICQ, elle est engagée à 42 ans comme assistante bibliothécaire, 1906, puis devient, 10 ans plus tard, bibliothécaire en chef. Elle occupe ce poste de direction durant près de 4 décennies et loge à l'hôtel de ville, même après sa retraite. Elle s'éteint à l'âge de 93 ans, 50 ans après ses débuts à l'ICQ. Mademoiselle, occupait-elle un véritable poste de direction? Quelle était l'ampleur de ses tâches et responsabilités? Comment cette femme célibataire a-t-elle négocié avec la censure ecclésiastique? Quels impacts son travail eut-il sur la vie littéraire de Québec? Ce ne sont que de rares questions en regard de tout ce qui mériterait d'être creusé à propos de cette mystérieuse figure qui attend sa biographie. C'était « Promenade dans une cité de mots », un texte de Marie-Ève Sévigny, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Élise A. Héroux, La vie devant soi. Une entrevue réalisée par Alexandra Mignot, parue le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Quatre femmes qui ne se côtoient pas vraiment voient leur vie chamboulée quand l'une d'entre elles a un malaise qui l'entraîne à l'hôpital, l'obligeant à laisser son chien entre les mains de sa voisine solitaire qui semble fermée au monde. Et là, cette dernière, en s'immisçant dans la vie d'une autre, découvre de nouvelles perspectives. 4 clémentines éparpillées, c'est un roman pétillant et lumineux qui donne le goût de s'ouvrir aux autres et de célébrer la vie, cette vie foisonnante qu'il faut embrasser dans tous ses aléas. Dans votre roman, 4 voix différentes se partagent la narration, mettant en scène des personnages vivants, imparfaits, qui nous semblent réels, vrais. Quels étaient les défis de créer ces 4 univers distincts, tout en rendant vos personnages attachants malgré leurs imperfections? À mon avis, ce sont les imperfections assumées qui rendent les personnages fictifs attachants. On ne s'attache pas autant à du lisse. La perfection peut même créer une distance entre le lecteur et l'œuvre. Moi, c'est toujours l'authenticité et les imperfections qui m'émeuvent. Mes propres univers viennent de mon expérience, de ma vérité, de mes failles. C'est là que s'inventent mes histoires et qui ont l'air vraies. La tendance de Nathalie à s'isoler, l'énergie anxieuse de Doris, l'intériorité de Fabienne et même la sérénité de Madame Giffard, ce sont toutes des choses qui me ressemblent, à divers degrés et avec le piment de l'imagination. En cours d'écriture, je me posais constamment la question « Et si on me racontait ça dans la vie, est-ce que j'y croirais? Est-ce que ça me toucherait? » Ma propre réaction au texte est souvent un bon indice pour anticiper celle du lecteur. Malgré la solitude qui plane dans le livre, des personnes qui ne se côtoyaient pas vraiment devront s'entraider lorsqu'une d'elles séjournera à l'hôpital. Aviez-vous en tête d'écrire sur la solidarité et l'importance de créer des liens? Ça faisait partie de mes thèmes, en effet. La solitude et l'isolement, on le sait, sont devenus des enjeux de santé publique. Et ce sont des réflexions qui ont fatigué bien des gens, dont moi-même, pendant la pandémie de COVID. Qui sont mes voisins? Qui m'aidera si je suis mal prise? Et à qui, moi, je peux être utile? Bien souvent, on ne connaît pas les gens qui vivent tout près de nous. Le besoin de créer des liens, de se sentir entouré, même s'il s'agit de gens qu'on n'a pas forcément choisis, nos voisins, nos collègues de travail, etc., est devenu prédominant pendant ces mois difficiles. Et j'espère que c'est un souci qui va rester dans l'avenir. Qu'on va garder le réflexe et la capacité d'aller un peu plus vers les autres. Ils ne sont jamais si différents de nous qu'on le croit au premier abord. La vieillesse n'est pas une histoire d'âge dans votre roman. Le personnage de Jocelyne est une femme âgée et très active, tandis que Nathalie, qui n'a même pas la quarantaine, semble vivre en attendant l'arrivée de sa vieillesse. Souhaitiez-vous dépeindre une façon différente de vieillir? Comment le thème de la vieillesse vous a-t-il inspiré? Au départ, un de mes souhaits était de défier mes propres croyances sur la vieillesse et l'avancée en âge. Au tournant de la quarantaine, j'étais trop sensible aux préjugés basés sur l'âge. Et alors que ma trentaine était terminée, je me sentais dans un cul-de-sac. Comme si je n'avais plus le droit de rêver à rien. Comme si j'étais obligée de me figer dans ce que j'avais construit jusque-là, sans pouvoir faire de nouveaux choix. Pourtant, tant qu'on vit, la vie n'est pas finie. Ce roman est très positif, très ouvert sur l'avenir, peu importe l'âge, peu importe où on en est dans la vie. En l'écrivant, je me suis enseignée à moi-même que j'ai encore la vie devant moi. S'il contribue à défaire de fausses perceptions chez d'autres hommes et femmes, à les apaiser et à les décomplexer face au temps qui passe, j'aurai atteint mon objectif. Nathalie est un personnage qui aime ce qui est prévu, qui semble presque craindre de vivre. Mais des impondérables vont survenir et déranger son ordre établi. Était-ce important pour vous de montrer qu'il faut vivre en laissant de la place à l'imprévu? Je n'avais pas vraiment l'intention consciente de le montrer, mais je pense que lorsqu'on sait naviguer parmi les impondérables, on a un grand bout de fait vers la sérénité. Et ce n'est pas toujours un apprentissage facile. Lâcher le contrôle, laisser aller les idées qu'on s'était faites sur notre vie et sur soi, s'adapter, oublier les opinions et perceptions périmées, s'autoriser à changer d'idée. Et tout ça fait partie de mûrir, et c'est une grande libération que de pouvoir dire « Voici ce qui se passe en ce moment. Voici ce que je n'avais pas prévu. Voici ce sur quoi j'ai du pouvoir. Voici ce à quoi je ne peux rien changer. » Dans chaque journée, c'est bien plate, mais des choses surviendront sur lesquelles on n'a pas prise. Des irritants, petits et grands. Tout ce qu'on peut faire, c'est prendre un respire et sourire, et se dire que ça va passer. Avec ce roman, aviez-vous envie d'écrire une histoire qui fait du bien? C'était ma première intention, et la plus importante, apporter de la bienveillance et des rires aux lectrices et aux lecteurs. Nous ne vivons pas à l'époque la plus facile. L'amorosité gagne du terrain. Les gens s'isolent. L'épicerie coûte cher. La terre nous lâche. Parfois, il faut se ramener aux petites choses ordinaires, à la douceur qu'on peut souvent trouver près de soi. Rire, prendre la main de ceux qu'on aime, s'arrêter une seconde pour constater qu'il fait soleil, c'est plein de beauté partout pareil. Sans voir la vie par un prisme rose, ni nier la réalité, je crois fermement que la joie se cultive autant que le sarcasme, que c'est un muscle à maintenir en forme, et que chacun doit y voir pour le bien commun. Si la vieillesse se prépare tandis qu'on a la santé, les pousses de bonheur futur se bouturent dans le présent. La joie fleurit tant qu'on lui donne de l'eau. C'était Élise A. Héroux, La vie devant soi. Une entrevue réalisée par Alexandra Mignot, parue le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Entre parenthèses, quelques incontournables en littérature étrangère. Une sélection des libraires indépendants parue le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Quelques grands auteurs de la littérature étrangère font paraître cette saison des ouvrages qu'il nous coûterait de passer sous silence. Tout d'abord, soulignons le retour au roman policier de Fred Vargas, après deux essais sur les changements climatiques dans « Sur la dalle, Flammarion ». On retrouve donc le commissaire Adamsberg et ses excentricités, cette fois dans un village fictif, où la population croit encore aux fantômes et où plusieurs meurtres sont commis. Dans un tout autre registre, on surveille également avec attention le nouveau récit de François-Henri Désérable, intitulé « L'usure d'un monde, une traversée de l'Iran, Gallimard ». L'auteur revient sur les 40 jours qu'il a passés à la fin 2022 en Iran, de Téhéran au Baloutchistan, avant d'être sommé par les autorités de quitter le pays. Selon l'éditeur, une république islamique aux abois qui réprime dans le sang les aspirations de son peuple y est dépeinte. Claire Castillon nous invite, quant à elle, dans une série de 21 courtes nouvelles surprenantes réunies sous le titre « L'œil, Gallimard ». Ça parle d'absence d'amour. Une femme sous la neige attend que son amant, caché dans le verglas, la rejoigne. Ça parle d'incompréhension entre les êtres. Comment réagir à sa progéniture qui se met en scène sur Instagram? Ça parle de relations humaines, de profonde solitude, de désœuvrement, mais toujours, ça parle d'espoir. Pour sa part, Frédéric Beigbeder réfléchit à sa condition dans « Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé », Albin Michel. Il jauge la drogue, le sexe et la célébrité à l'hôtel du bonheur. À vous maintenant, aimez mieux les visites au monastère que les fêtes arrosées. Il y parle de coke et de son désir puissant pour les femmes, propose un point de vue bien personnel. Un livre comme tentative pour se comprendre lui-même. J'ai toujours voulu être transgressif, sans savoir que j'étais conformiste, écrit-il. C'était, entre parenthèses, quelques incontournables en littérature étrangère. Une sélection des libraires indépendants parue le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.